Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes avec Romain Dodéjean et avec Émilie Dubois. Bonjour.
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 On a vu hier Kima, on va pas repitcher le film et refaire toutes les questions que vous avez eues à la fin du film, puisqu'il y aura le compte-rendu que les gens normalement voient, puisqu'ils sont sur le site internet, au moment où ils écoutent cette interview. Ce film, je trouve, on a vu le Parasomnia de l'année dernière, donc là vous êtes le deuxième Parasomnia qui sortira. J'ai trouvé que vous aviez exploité au maximum en fait vos contraintes. Vous avez plein de scènes, extérieur, intérieur, plein de personnages. On reviendra sur le son après, bien sûr. Comment vous avez fait, façon de parler, pour aller jusqu'au bout, en fait, de tout ça?
Le secret, c'était de trouver un lieu où on pouvait à la fois loger notre équipe de tournage et avoir très peu d'espace autour, énormément de décors différents. On a pensé le tournage un peu comme un, et le lieu comme un studio à ciel ouvert. On a logé l'équipe dans une ferme équestre, qu'on a également utilisé comme décor du film. Et à 5 minutes de voiture, on avait un village, une ancienne usine désaffectée, de la forêt. On a essayé de maximiser ça, de façon à pouvoir tourner très vite dans plein de décors différents. C'était une des ambitions du film. C'était, je dis bien, un des challenges du film, puisque, comme vous le dites, il y a beaucoup de décors dans Kima. Et voilà, la seule solution, c'était de pouvoir faire ça. Le seul endroit où on a dû s'éloigner, c'est pour l'usine de Carbenergy, qui était à une vingtaine de minutes en voiture, donc somme toute pas si loin que ça.
Et ça veut dire au niveau de la construction du scénario qu'il y a des retouches, façon de parler, une fois que les décors sont trouvés, les lieux de tournage, comment ça s'est passé pour vous? Pour vous, vu que vous êtes tous les deux scénaristes.
Alors oui, déjà il y a une étape, c'est qu'à l'écriture même, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors par rapport à un film à 1 million d'euros, mais dans l'absolu, pour un long métrage lambda, on a quand même essayé de regrouper au maximum et de trouver, comme disait Romain, des décors qui puissent être trouvables à proximité les uns des autres. Et par rapport au tournage, on a effectivement dû regrouper des scènes qui n'étaient pas prévues dans tel décor, mais du coup les regrouper dans un autre décor, afin de pouvoir optimiser le plan de travail. Et par rapport, en particulier à la ferme équestre, on a réécrit exprès des séquences, la séquence que vous voyez dans le film, on l'a écrit spécialement pour la faire avec des chevaux, ce qui n'était pas prévu initialement.
Autre chose aussi, un film à 1 million d'euros, ça veut dire peu de temps de tournage. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement rapide et que dès qu'il y a le moindre caillou dans l'engrenage, on prend du retard. On communiquait beaucoup avec Émilie pendant le tournage parce que parfois, au milieu d'une journée, je réalisais que j'allais pas pouvoir tourner toutes les séquences qui étaient prévues aujourd'hui et le timing était tellement serré que si on ne tournait pas, on ne pourrait jamais tourner. Donc j'appelais Émilie un peu parfois paniquée, parfois calme, ça dépendait, pour lui dire... Alors voilà, et il me reste 4 heures devant moi, il y a toutes ces séquences, qu'est-ce que t'en penses? Et si on fusionnait celle-ci et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on va comprendre? Est-ce qu'on va pas perdre quelque chose? Au contraire, est-ce qu'on peut la supprimer? Ou est-ce qu'on peut la faire plus tard? Est-ce que ce dialogue-là, on peut le mettre dans une autre séquence? Et ça a été un travail, ça s'est pas passé tout le temps, mais ça s'est passé régulièrement, et c'est absolument génial pour ça d'être à deux à l'écriture, pour pouvoir trouver des solutions, surtout avec Émilie qui gardait l'esprit frais pendant que nous, on était crevés, quoi.
Quelle est votre relation au son?
Je suis absolument passionné par le son au cinéma. J'ai découvert ça en faisant des films, puisque je pensais pas l'être au départ, mais c'est en faisant des courts-métrages, j'ai réalisé que j'avais envie de faire des films de science-fiction où le surnaturel existait beaucoup dans le hors-champ, dans les ondes, dans le vide, dans le vent, dans la matière, dans les vibrations. C'est plutôt de là qu'est partie ma passion pour le son. J'aime beaucoup des films de science-fiction qui se passent non pas dans des êtres forcément de chair, mais dans des sensations, dans le corps des personnages. Et naturellement, pour moi, le son est un vecteur de mystère, puisque il suscite notre imaginaire parfois plus fort que les images. Et c'est très pratique, le son aussi, quand on a peu de budget, puisque c'est pas le plus cher à faire, mais on peut travailler avec des gens extrêmement talentueux. Et j'ai eu, pour ma part, la chance de travailler avec Pascal Villard, qui est un très grand monteur son français, qui a énormément d'expérience, plusieurs Césars, et qui est passionné de science-fiction, et qui a mis son expérience au service de mes projets. Et ensemble, on cherche, on travaille, on bidouille, on parle parfois une journée entière par onomatopée purement, et on fait le son avec la bouche, on cherche, on regarde des extraits, et c'est un travail de construction, d'architecture, de bidouille, de théorie, de pratique. C'est vraiment une de mes parties préférées de la fabrication d'un film.
Comment vous avez créé la personnalité des trois personnages principaux, les trois ados? Parce qu'ils ont tous des vrais caractères.
Alors on est parti du personnage de Tony. Initialement d'ailleurs il était tout seul. On a toujours imaginé, parce que ça c'était une chose à laquelle Romain tenait beaucoup, c'est d'avoir ce personnage principal solitaire qui va apprendre et se découvrir à travers sa relation avec les autres. Il y a effectivement la créature, mais il y a aussi ses deux amis, Zoé et Ousmane. Et par rapport à eux, en fait on... nous, on était très... on a grandi dans les années 80, on est très amateurs de ces films qui réunissent des bandes un petit peu disparates, quoi. Et on a essayé d'imaginer leurs caractères aussi différents les uns que les autres. Et on voulait aussi détourner ainsi un peu le classique de la gamine qu'on a besoin de sauver, la fille gentille qui joue un petit peu la princesse. Au contraire, on voulait un personnage ultra badass qui jure comme un charretier. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils viennent la sauver alors qu'en fait, elle s'est déjà sauvée elle-même. On trouvait ça très fun de renverser un petit peu les codes. Et pour Ousmane, en fait, Ousmane, on voulait... pareil, on voulait détourner un peu le cliché de la Kaira de banlieue qui sait tout. Là, on voulait au contraire un garçon très calme, qui s'est redécouvert au milieu de la nature et qui du coup a une présence très apaisante pour les autres. C'est là aussi la voix de la raison, Ousmane. Il interprète d'ailleurs Mamadou, il a été choisi pour ça aussi. Il est légèrement plus âgé que les comédiens qui jouent Tony et Zoé. Et du coup, il avait un peu ce rôle de grand frère et de présence rassurante qui du coup allait extrêmement bien avec le personnage, quoi. Donc voilà, comme ça, on les a pensés vraiment à la fois disparate et très complémentaire.
Je crois aussi qu'on a mis de nous dedans, c'est-à-dire que je pense que Zoé n'existerait pas sans la personnalité d'Emily et sans aussi notre passion commune pour la science, la nature, les enquêtes. Enfin, il y a de nous dans ces trois personnages, je crois.
Est-ce que vous avez expérimenté, vous, une vraie chambre sourde ?
Oui. J'ai expérimenté une vraie chambre sourde à l'IRCAM. C'est une expérience tout à fait déroutante, beaucoup moins que dans le film. Mais on va dire que là, on a poussé dans Kima le réalisme aux frontières de la... Enfin, on va dire qu'on a de la licence poétique par rapport à cette chambre anéchoïque. Mais oui, il y a beaucoup de légendes qui courent autour des chambres sourdes, comme le fait qu'on peut entendre notre cœur battre, nos veines taper dans notre corps, et que ça peut provoquer toutes sortes de malaises ou d'expériences étranges. C'était pour moi une façon de, comment dire, mettre au cinéma quelque chose qu'on voit peu, et puis de jouer avec le son, puisque dans Kima, on expérimente toutes sortes de choses avec le son, des absences de son, des éteignages de son, des assourdissements, que c'était encore une exploration de ça.
Ça sort quand, en salle, vraiment ?
Alors,
parce que là, on est au Festival Mauvais Tour, donc le 18 octobre. On l'a vu hier, mais ça sort quand ?
Alors, on n'a pas de date encore, mais probablement vers mai-juin 2026. Voilà, et on aura des dates bientôt qu'on pourra communiquer avec des affiches, des bandes annonces, tout ça, dans quelques mois, quoi.
On pourra le voir en festival d'ici là, je suppose.
Oui, le prochain festival auquel on le présentera, c'est les Utopiales, le festival international de la science-fiction de Nantes, ma ville natale, dans un festival dans lequel j'ai grandi quand j'étais adolescent et où j'ai appris à aimer et à vouloir faire de la science-fiction. Et ça sera le samedi 1er novembre à 12h15.
Je vous propose 5 choses et vous choisissez celles que vous voulez. Vous pouvez choisir un arbre dont les fruits guérissent les blessures, un instrument de musique dont la mélodie apaise les conflits, un livre dont chaque page révèle un secret oublié, une boussole qui vous guide toujours vers l'espoir, ou une lampe qui éclaire des vérités cachées. Vous prenez quoi ?
Alors moi, je vais direct sur le livre qui révèle des secrets oubliés. Ça me fait penser au livre de sable de Borges. Et du coup, je trouve ça intriguant et poétique.
Je vais choisir la boussole qui me dirige vers l'espoir. Parce que, simplement, je pense que... En fait, ça fait vraiment écho avec ce qu'on accomplit quand on essaye de faire du cinéma, quoi. Il faut garder constamment l'espoir en boussole. Et c'est ça qui nous fait nous remettre en question, qui nous fait réécrire de nouveaux projets. Donc voilà, je choisis celle-ci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.